Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Bernard Raymond pour évoquer le thème « Le culte protestant, mise en scène de la sobriété ?» Point d'interrogation. Pourquoi ce sujet ? Quand on parle avec des personnes qui ont découvert le protestantisme alors qu'ils venaient d'une autre tradition, ce qui revient fréquemment dans leur expérience, c'est le dépouillement des lieux de culte, le dépouillement des temples, donc la sobriété du culte. D'où ma question, s'agirait-il d'une mise en scène soigneusement élaborée ? Cela peut paraître bizarre et antinomique, mais cette problématique m'a semblé mériter un sujet que va développer maintenant Bernard Raymond, professeur honoraire de la faculté de théologie de Lausanne. Alors, bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors donc, ce thème un peu compliqué, je ne sais pas, que dit la Bible à propos du culte ? D'abord, est-ce que la Bible parle du culte, à votre connaissance ?
Dans l'Ancien Testament, évidemment, il y a beaucoup de passages sur le culte à cause du temple et de tout ce que l'usage du temple représentait pour le peuple d'Israël. Moi, ce qui me frappe au contraire, c'est que dans les paroles de Jésus, on a l'impression que ce qui importe, c'est ce qui se passe avant ou après le culte. Le culte, ce qu'on entend du haut culte doit être une préparation à la vie qu'on mène ensuite. L'amour du prochain. Et puis, je suis frappé de constater qu'il dit, lorsque vous voulez prier, ce n'est pas au temple qu'il faut vous rendre, vous vous rendez dans votre chambre et vous priez Dieu qui est là dans le secret. Le secret de votre intimité. Donc, le culte, par rapport à l'ensemble de la vie que nous menons, est quelque chose de très relatif. C'est un point de repère tous les 7 jours. Bon, 7, c'est un chiffre qui vient du monde païen. Les 7 jours, le soleil, la lune, le Mars, Mercure, Jupiter.
Oui, et qui est repris dans la Genèse. Qui est repris dans la Genèse.
C'est repris de la Genèse aussi, où il y a aussi 7 jours. Donc, c'est un chiffre qui a une forte portée symbolique dans l'ensemble du monde antique, donc aussi dans le nôtre à certains égards.
D'accord. Alors, donc, finalement, pas grand-chose dans la Bible à propos du culte, à part le culte des Israélites. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas grand-chose à part prier dans le secret de votre chambre.
Oui, bon, puis il y a toutes sortes de considérations dans les Épîtres. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que lorsque la réforme intervient, elle simplifie le culte.
Alors, on va voir la réforme, on ne va pas aller trop vite, on va d'abord on est bien d'accord pour la Bible, en fait, Jésus s'est prié dans la chambre, dans le secret, que c'est un peu ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, etc.
Ou bien prier ensemble notre Père, qui est une prière très simple et très brève.
Oui. Alors, ensuite, donc, l'Église primitive, avant d'arriver à la Réforme, on va d'abord parler de l'Église primitive et de l'organisation du culte départ.
Ce qui est caractéristique, ou plutôt surprenant, dans le fond, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé immédiatement après Jésus, dans les années 50-60, au moment de la conception des évangiles, leur rédaction, on ne sait pas grand-chose. Il y a des communautés qui se cherchaient. Et puis ensuite, on arrive au 3e-4e siècle, où les choses alors sont vraiment mises en place. Il y a des églises, il y a des liturgies qui sont plus ou moins développées en fonction des usages de la cour à Constantinople ou à Rome, chez les empereurs. Les évêques prennent de la place. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans les siècles, la messe, pour utiliser le vocabulaire occidental, ou la divine liturgie, comme disent les orthodoxes, prend des dimensions énormes.
Et alors, c'est peut-être parce que vous parlez du 3e, 4e siècle, ben c'est le moment où le catholicisme, le christianisme devient religion d'État.
Ouais.
Et donc, il y a une alliance déjà entre le pouvoir étatique et la religion. Et peut-être que cette mise en scène, alors là, très élaborée de la messe, sert aussi quelque part l'État.
Ça encadre les populations. On peut même pas parler de l'État, c'est l'ensemble
Oui.
de la société. Constantin, probablement, s'est converti au christianisme. C'est probablement une conversion, mais à sa manière, impériale. Et lui, il ne conçoit pas que les gens ne suivent pas ce qu'ordonne l'empereur. Au fond, il y a l'empereur, il y a des gens autour de lui qui réfléchissent, et puis le bon peuple, il suit. On
Oui.
l'encadre. Voilà. Et puis le peuple suit, mais il a l'habitude depuis des millénaires de suivre. Donc, les différentes religions sont ainsi constituées, dans des mouvements de foule plus ou moins restreints. Et puis apparaît le christianisme avec une exigence fondamentale. Là, tu es toi en présence de Dieu. Ça devient beaucoup plus sérieux.
Mais on retrouve quand même le pain et les jeux finalement de l'Empire romain, c'est-à-dire que la messe, ça devient un spectacle.
Oui, alors, la messe, bon, je viens un spectacle. Ça devient une série d'usages qui encombrent la vie des croyants et, pour le dire simplement, distraient leur attention de l'essentiel. C'est là que j'attribue beaucoup d'importance à ce que ça fait Zwingli. Il était deux mois plus jeune que Luther, il est vraiment contemporain de Luther. Une réforme qui s'est faite parallèlement à celle de Luther, plus exigeante, en tout cas sur le plan du culte. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il était curé de paroisse. Il avait une très forte culture, il lisait le grec, mais puis en même temps, il était curé de paroisse. Et puis, c'est au fur et à mesure qu'il était curé de paroisse qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas.
Alors, je rappelle hein, Zwingli, donc un des premiers réformateurs, le père du courant réformé,
Oui.
qui est contemporain de Luther, bien avant Calvin.
Ah, bien sûr,
Voilà.
il est mort avant que Calvin passe à la réforme, c'est tout dire. Mais donc, c'est le réformateur zurichois. Hein. Tout ça se passe dans la région de Zurich. Mais ce qui me frappe, c'est que cet homme qui était curé de paroisse, qui avait affaire aux gens, des paysans et autres, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On surcharge la vie, la conscience, les gens de toutes sortes d'obligations religieuses pour assurer le salut des défunts, pour pardonner leurs péchés, etc. Et pour lui, il n'y a d'adéquation fondamentale entre ce qu'il lit dans les évangiles et puis ce qu'il est obligé de faire comme curé. Et alors, quand il arrive à Zurich, c'est des laïcs qui l'ont appelé à Zurich. Parce qu'ils ont repéré que c'était un bon prédicateur et qu'il avait des choses à dire. Et là, ben, ma foi, on simplifie le culte. Alors, on débarrasse les églises de tous les autels et autres qu'ils encombraient pour se concentrer sur l'essentiel.
Alors que Luther n'a pas fait ça. Luther, qui est
Lui,
donc contemporain et
il était surtout soucieux d'abord de son salut personnel. Et puis, il faut pas oublier que Luther a mis en place la messe allemande, c'est-à-dire qu'il a conservé l'ensemble, l'ordinaire de la messe, en l'abrégeant et en simplifiant et en gommant ce qui n'allait pas, s'il y semblait. Tandis que chez Zwingli, il y a vraiment une restructuration complète du culte.
Alors, on va en parler de la restructuration de Zwingli. Donc, c'est en tant que curé, en fait, vous nous expliquez que c'est parce qu'il était curé qu'il a fait la messe et qu'il s'est rendu compte que là, il y avait un problème. C'est pas du tout la même démarche que Luther, qui, comme vous le dites, était surtout préoccupé de son propre salut.
Voilà. Pour Zwingli, c'est le christianisme des gens qui lui importe. Si vous avez vu le film qui a passé sur Zwingli, qui a été diffusé plusieurs chaînes de télévision. Il y a un
Il a
moment
été
qui est.
difficile de se procurer ce film par un moment, mais bon, il a fini par arriver en
Mais
France.
il y a,
Oui, ça.
y a une scène qui est tout à fait intéressante, celle qui, il, dont il est curé et puis là il se promène et il voit une femme veuve qui est en train de s'adonner à toutes sortes de mortifications pour le salut de l'âme de son mari. Et il lui dit, mais c'est pas ça qui est important, c'est pas ça que tu dois faire. Ton mari, Dieu s'en occupe, il est entre les mains de Dieu, il faut vivre. C'est le moment important. Vous voyez, des choses toutes simples à certains, bien des égards. Et c'est pour ça que si vous comparez le culte protestant, et particulièrement réformé dans son développement à travers les siècles par rapport à d'autres grandes liturgies chrétiennes, il se distingue par sa simplicité. D'aucuns diront son aridité. Puis à certains moments, c'est vrai que le discours du pasteur prend un peu trop de place. Il n'y a plus que ça. Mais.
Alors, on va voir, on va voir. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce film qui a été réalisé il y a quoi, il y a 4-5 ans dans mon souvenir, qui s'appelle Le Réformé. Pardon?
Pour janvier 2020, c'était à l'occasion du 500e anniversaire de l'arrivée de Zwingli à Zurich.
Donc,
1500.
d'accord, en 2020, donc, c'est un film qui s'appelle Le Réformateur, si je me souviens bien. En tout cas, c'est traduit en français comme ça.
Oui, ça fait.
Voilà, c'est un très, très beau film.
Ah, il y a.
Et bah, je conseille à nos auditeurs de le regarder. Ils auront vraiment, de se le procurer et de le regarder. Ils auront vraiment un aperçu de ce personnage assez fantastique qui était Zwingli.
Oui.
Assez
C'est un fort personnage,
un
un
fort
fort.
personnage. Voilà. Mais on va revenir à Zwingli. Luther, lui, donc, ne parle pas du culte. Vous avez dit qu'il
Oui,
fait une
oui,
messe
oui. Ah non, non, il en parle. De part et d'autre, il s'agit bien de persuader les gens qu'on ne célèbre pas le culte pour obliger Dieu. On célèbre le culte pour se mettre à disposition de Dieu. C'est pas la même chose. Pour écouter sa parole, recevoir les paroles de consolation, recevoir les paroles de mobilisation. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Ça qui est important. Et à bien des égards, on peut dire que dans cette perspective protestante, la vie chrétienne commence à la sortie du culte. Elle n'est pas dans le
Alors,
moment.
vous dites que le culte n'est qu'un des éléments de la vie protestante, essentiel, certes, mais pas indispensable. Alors, vous pouvez détailler ce que ça veut dire, enfin, on comprend ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pouvez détailler ça en tant que théologien?
C'est théoriquement pas indispensable, mais nous en avons besoin pour le bon équilibre de ce que nous sommes. Ne serait-ce que pour nous reconfronter régulièrement à plusieurs, aux exigences, aux promesses des évangiles, de Dieu, mais on ne va pas faire du culte, comment dire, un instrument de salut. Je ne vais pas au culte pour être sauvé. Je vais au culte, mais c'est pour me conforter dans ma foi, pour me remonter le moral quand il ne va pas.
Et pour être avec les autres aussi, en communauté.
Pour être aussi avec les autres, mais parfois il y a des gens qui viennent au culte, qui se tiennent tout à fait à l'écart, parce qu'ils ont besoin de se tenir à l'écart. Il y a toutes sortes d'attitudes qui sont là ensemble, et il faut les accepter. Moi, je crois que le grand moment du culte, dans notre contexte en particulier, c'est que c'est un moment de liberté. Hein, les gens qui viennent au culte, ils ne viennent pas parce qu'ils sont obligés. Alors, c'est vrai que dans les siècles précédents, les gens allaient au culte parce que c'était une obligation sociale. Ça, je veux bien. Hein. Encore, j'ai eu un grand-père qui, lui, n'allait jamais au culte parce qu'il était en pétard avec le pasteur.
Oh, d'accord.
Un de mes grands-pères. Puis j'avais une grand-mère qui allait très régulièrement au culte, mais avec un esprit tout à fait indépendant à l'égard de la vie des pasteurs. qui fait
Et
que.
alors, est-ce qu'il y a un rapport entre la théologie et la prédication d'une part et la forme du culte d'autre part? Ou est-ce que c'est indépendant?
Mais tout ça se tient. Il ne faudrait surtout pas que les différents moments du culte soient en contradiction les uns avec les autres. Il me semble qu'il faut que ça se tienne. Je suis frappé, par exemple, parfois, les pasteurs font chanter des cantiques dont le contenu, les paroles vraiment sont presque en contradiction avec ce qu'ils viennent de dire. Ils devraient être plus critiques dans le choix de leur cantique. Mais il y a un peu de tout dans nos psautiers. Il y a à boire et à manger. Mais voilà. Mais l'important, c'est que les gens viennent et ils y viennent librement. J'aime beaucoup à cet égard ce que Dominique Hernandez, la pasteur du foyer de l'âme à Paris, a dit dans un de ses bulletins. Elle dit, les personnes qui se joignent à l'assemblée dominicale n'y sont pas obligées. Ni la société, ni l'église locale n'exercent de contraintes sur elles. Leur marche est délibérée, libre, et si cela semble parfois normal et évident pour les uns et les autres, soyons toujours conscients qu'il y a là l'expression d'une volonté, d'une liberté particulière et précieuse. Dans notre société, c'est important. Rappelez, les gens qui viennent au culte viennent là librement.
Alors, on
D'ailleurs,
va s'arrêter juste pour une pause musicale et on reprendra après. Alors, vous nous avez proposé le canon de Pachelbel. Nous écoutons ce morceau. Donc, pour parler du culte, qui est un des éléments de la vie protestante, mais pas indispensable, comme vous venez de le rappeler avant la pause musicale. Alors, ces moments où vous dites qu'il y a contradiction entre les paroles des psaumes qu'on chante ou des cantiques et la prédication, est-ce que vous pensez que c'est parce que le pasteur n'y fait pas attention ou le prédicateur n'y fait pas attention, ou est-ce que c'est un désir d'attirer l'attention, de réveiller l'auditoire?
Ça tient au fait que nos recueils de cantiques, il y en a plusieurs. Mais par exemple, celui qui est en usage dans la paroisse où je vis, là en Suisse romande, le dernier recueil, il y a des cantiques qui relèvent de différentes traditions théologiques dans le protestantisme. Il y en a qui relèvent du réveil religieux du XIXe siècle, il y en a qui relèvent de l'orthodoxie doctrinale du XVIIIe siècle, il y en a qui sont plutôt au christianisme social, et ils sont juxtaposés dans ces recueils. Donc, à mon sens, il faudrait être un peu critique à l'égard du libellé des psaumes. Le plus sûr, c'est de chanter les psaumes tels qu'ils étaient mis en vers français et en musique au XVIe siècle, mais on ne peut pas s'en tenir à la seule musique du XVIe siècle, évidemment. Il ne faut pas.
Alors, dans le culte protestant, il y a la prédication, c'est le moment principal. Et puis, vous venez d'en parler, il y a les chants. Et vous dites que les chants, parfois, donc, peuvent être en contradiction avec ce que dit le prédicateur. Mais il faut parler de la liturgie. Parce qu'il n'y a pas que la prédication, il y a la liturgie. Alors, peut-être, je vais vous poser d'abord une autre question avant. Est-ce qu'en Suisse, il y a eu comme en France, sous la Troisième République, où les hommes venaient au culte pour la prédication? Ils jouaient éventuellement aux boules, à la pétanque, devant le temple et ils rentraient au moment de la prédication et ils ressortaient après. Et puis le reste, ça ne les intéressait pas, la liturgie, les cantiques, les prières, ça ne les intéressait pas. Est-ce qu'en Suisse, vous avez eu ça aussi?
Bien sûr, il y a aussi des usages comme ça. Il y a eu j'ai vu, quand j'étais jeune remplaçant, il y a bien des années en arrière, dans une paroisse alpestre, les hommes qui étaient sur la galerie, c'était des paysans qui travaillaient en plein air toute la semaine, puis ils étaient là au chaud le dimanche, et au moment où le pasteur commençait sa prédication, ils s'endormaient sur leur siège. Amen, ça les réveillait.
Oh,
Donc, voyez.
je pourrais vous dire que des fois, dans le temple, si on en regarde, il y en a qui s'endorment. Bon, mais alors, ils ne le font pas.
Tant mieux s'ils sont donc s'ils doivent pour croire que ça ne méritait pas d'être entendu, puis voilà. Mais comme quoi,
ou que
mais
ça les mettait
y a des
en
usages.
confiance.
Mais
Ou
alors,
que ça les met en confiance.
nous vivons dans une période où la sensibilité culturelle générale est profondément différente de ce qu'elle a été, disons, jusqu'au 19e siècle. Puis ça s'est un peu prolongé dans les campagnes jusqu'au 20e. Nous avons beaucoup de peine à imaginer que le culte pouvait durer 2 heures, 2 heures et demie. Il y a eu, sauf erreur, c'était le professeur de Félis à Montauban, ça devait être au début du 20e siècle. Un dimanche, il a prêché pendant 1 heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, le dimanche matin, il a dit, eh bien, oui, le temps passe. Le reste de ce que j'ai à vous dire, je dirai au culte de cet après-midi à 3 heures. Les gens à l'époque supportaient ça. Et puis tout d'un coup sont arrivées les années 1970-1980. La critique de l'autorité, il ne faut pas parler, il ne faut surtout pas parler du haut d'une chaire, on va raccourcir. Puis pour finir, des messages qui durent 5 minutes. Puis s'il n'y a plus que 5 minutes de message, on met quoi? On va remplir avec je ne sais pas trop quoi. Mais il faut effectivement que si on a quelque chose à dire, ce soit quelque chose d'important, bien préparé, et que ce soit dit de telle sorte que tout un chacun y retrouve son bien. Ce n'est pas une conférence académique. Ce n'est
Disons
pas
que
un monument.
dans les cultes auxquels j'ai assisté récemment, en général, une prédication dure 15-20 minutes.
Oui, maintenant. Oui, 15-20 minutes.
Et puis, il y a la liturgie autour. Alors, est-ce que la liturgie en Suisse suit le même plan qu'en France, c'est-à-dire
Oui,
louange, confession des péchés?
théoriquement, oui, mais je me rends compte que les pasteurs prennent de plus en plus de liberté.
Et ça vous embête?
Bon. Non,
Non.
non, mais il y en a qui prennent des libertés parfois un peu fantaisistes et mal réfléchies. Mais enfin voilà, nous sommes dans une période de transition, je ne sais pas devant de quoi on va. Je constate que les femmes pasteurs commencent à amener beaucoup de diversification dans le vêtement, la robe pastorale que le pasteur est censé mettre lorsqu'il monte en chaire, elle la décore, il la met autrement. Nous sommes dans une époque de transition, je ne sais pas où devant de quoi on va, mais enfin, il faut les laisser faire. Les jeunes générations, puis tant mieux.
Depuis Zwingli, il y a dû avoir souvent ce genre de réflexion, à savoir que les choses évoluaient.
Rendez compte, Zwingli qui. Il commence par débarrasser le grand temple de Zurich de toutes les images qui s'y trouvaient, de tous les autels, tout. Pour la Sainte-Seine, on met une table de bois, comme chez les paysans. Plus de vaisselle liturgique, on prend de la vaisselle de bois, comme chez les paysans. Mais vous vous rendez compte pour les gens de l'époque? Et c'est une réformation qui a été voulue par les laïcs. C'est ça qui est important. Quand ensuite la réforme de Zwingli passe à Berne, ce n'est pas des pasteurs qui la mènent à Berne, c'est des laïcs qui commencent à prêcher la réforme, qui vont
Mais c'est
chercher.
la même, et ils suivent le même mouvement de.
Oui, il se modèle sur le modèle de Zwingli. Non, il s'est passé des choses incroyables au XVIe siècle.
Et alors, on va parler un petit peu de la scénographie des cultes protestants. Qu'est-ce
Voilà.
que c'est pour vous qu'un bon culte protestant?
Ah ben, bon culte protestant. D'abord, il faut qu'on y soit assis pas trop mal, hein, parce que ça va pas. Ni trop tendre, ni trop dur. Voilà.
Vous pouvez le dire un peu dans les Cévennes, parce qu'il y a des fois des temples où on a vraiment l'impression qu'ils veulent empêcher les gens de s'endormir, et ils y arrivent parce qu'on risquerait pas de s'endormir, tellement les bancs sont durs.
Oui, un des temps de la paroisse où j'habite a des bancs très durs et pour moi ça devient pénible. Heureusement, ils ont prévu des coussins.
Bon, c'est déjà ça.
Bon, il y a ça, il y a l'hyper-confort de certains temples américains où vous êtes à l'excès inverse. Bon. Au XVIe siècle, on n'était pas tellement exigeant, c'était des bancs poutres, c'est-à-dire une poutre posée sur le sol qui reposait sur d'autres poutres. Puis les gens avaient l'habitude, puis ils aimaient ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en particulier, dans toute la région du Midi de la France, l'Hérault, au XVIe siècle, s'est mise en place des temples, comme celui du Temple de Lyon, où les fidèles étaient rassemblés, on peut dire autour de la chaire. Et au lieu d'avoir un bâtiment qui était subdivisé dans la longueur, entre la nef pour les fidèles, le chœur pour les prêtres et l'événement liturgique, et une grande arche longitudinale, comme celle qu'il y a encore au temple du Collet de Dèze, mais c'était le cas du grand temple de Montpellier, du grand temple de Nîmes, tout ce qui a été détruit au moment de la révocation de l'édit de Nantes, cette grande arche longitudinale manifestait le fait que les fidèles étaient rassemblés autour du pasteur, pour écouter ensemble, à pas dire. Et
De
j'ai
parole.
donc ce qui est important, c'est cette communauté des fidèles qui est là, et non pas ce que les fidèles viennent assister à ce que fait le prêtre. Ça, c'est pas le culte. Ou du moins, c'est pas le culte tel que le conçoivent les protestants. C'est, comment dire? Il y a dans l'homme une profonde réalité qui est celle de la religion. On vient de découvrir que probablement même l'homme de Néandertal devait avoir probablement ce qu'on peut considérer comme des rites religieux. Au moins, du moins, premier pressentiment de ce qui va donner lieu aux religions. Et les religions sont des mises en place de toutes sortes de façons de rendre compte de ce mystère qui nous habite et auquel il faut répondre et auquel le christianisme vient donner sa réponse
On va
sous.
faire une seconde pause musicale et on se retrouve juste après.
Et voilà.
Alors, nous nous retrouvons maintenant pour une dernière question sur les constantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain dans le culte. On a parlé de la messe, on a parlé de Zwingli, on a parlé d'aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui doit rester? Qu'est-ce qui est resté depuis le début? Qu'est-ce qui doit rester? Qu'est-ce qui peut ne pas rester? Qu'est-ce qui...
Là, je vais bien me garder de dire ce qui doit rester, ce qui peut rester, ce qui restera. J'en sais rien. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que nous sommes dans un moment de passage, de mutation. Nous sommes au terme d'une grande époque. On peut dire qu'il y a eu des phases de 5 siècles. Une première phase de 5 siècles de Jésus. Au grand concile œcuménique qui ont mis les choses en place, défini des doctrines, etc. Bon. Ensuite, vous avez une deuxième vague, c'est la grande division de la chrétienté entre l'Occident et l'Orient en 1054, avec les excommunications réciproques. Puis ça, c'est le christianisme européen, occidental. Puis après, vous refaites 500 ans, vous arrivez à la réforme. Puis après, mettez 500 ans ou plus, puis c'est maintenant. Et maintenant, nous sommes dans une phase où il y a un changement de civilisation. Et beaucoup de choses se passent, vont se passer, qui finiront par déteindre jusque dans nos régions. Ces choses-là se passent beaucoup plus dans le Sud, les pays du Sud. Je viens de lire tout un article sur l'actuel secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, qui est un Indien d'origine des Indes, mais qui vient d'Afrique du Sud. Et manifestement, il a une sensibilité pour les choses très différentes. Comme le pape, d'ailleurs, il vient du Sud. Il sent les choses autrement. Donc, il sent très bien que dans ces pays-là, apparaissent des modes d'être, des façons de célébrer le culte, de chanter, de se comporter, qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués. Et alors, qu'est-ce qui adviendra ici? J'en sais rien. Peut-être que on aura des cultes où ils auront besoin de chanter. On va introduire des nouvelles manières de faire. Je suis très sensible au fait que, comment est-ce qu'elle s'appelle, la pasteur de l'oratoire du Louvre, son nom va me revenir.
De toute façon, je suis désolée, mais là, on est au bout de notre émission. Le temps est passé. Merci beaucoup, Bernard Raymond. Et on se retrouve dans 15 jours pour une autre émission de Thème et Anathème. Au revoir et merci de votre fidélité à nos auditeurs. Et merci à Bernard Raymond.
Thème et Anathème. Une émission proposée par Yolande Gounelle.